Radio Livre Dormir.
Radio Livre Dormir.
Radio Livre ou Dormir.
Retransmission de rencontres littéraires.
Le matin, de 8h
à 10h, le jeudi matin.
Radio Livre ou Dormir.
Retransmission de rencontres littéraires.
92.2
sur Canal Sud.
92.2.
Rencontre avec des membres de l'Envolée et des éditions du Bout de la Ville autour du livre « La peine de mort n'a jamais été abolie », dit et écrit de prison, choisi par l'Envolée. Le 1er février 2022, à la librairie Terra Nova.
Bonsoir. On est ravis d'être là. Franchement, c'est un plaisir de venir à Terra Nova. Toujours une librairie avec laquelle, à chaque fois qu'on sort un livre, quasiment, on vient s'en expliquer ici. Voilà, donc nous, c'est un peu une équipe mixte là que vous avez devant vous. C'est les éditions du Bout de la Ville et l'Envolée. On a souvent fait des choses ensemble. On avait édité un premier bouquin d'Afet Benotman, qui est un des fondateurs de l'Envolée. On bosse beaucoup ensemble en fait. Il y a une partie de l'équipe qui fait partie des éditions et il y a une partie de l'équipe qui fait aussi partie de l'Envolée. Enfin voilà, du coup, c'est pour ça que. Quelquefois, un peu la confusion peut exister, mais elle est tout à fait louable, cette confusion, en fait. On est assez proches. Je vais commencer un peu par expliquer, raconter un petit peu les éditions, parce qu'on présente ce soir ce livre-là. La peine de mort n'a jamais été abolie, dit et écrit, choisi par l'Envolée. De prison, oui, pardon. Les éditions, bon, comme beaucoup de maisons d'édition en ce moment, ce qui nous intéresse, c'est que les premiers concernés puissent s'exprimer directement. On fait de la critique sociale, mais on essaie de, on va pas publier des grands essais historiques, c'est pas tout à fait notre affaire, à part si les gens eux-mêmes développent toute cette histoire. Donc, on a publié des paysans écrasés par l'administration, des habitants proches des centrales nucléaires de Fukushima qui tentent de s'opposer à un État qui nie absolument. La contamination, des gilets jaunes, un énorme recueil avec toutes les photos des dos de gilets jaunes, qu'on a fait un livre bilingue qui circule aussi aux États-Unis pour un peu reprendre le texte en fait des gilets jaunes qui est dans leur dos, des bluesmen qui racontent le Sud ségrégationniste, etc. Enfin voilà. Et notre idée n'est pas tellement de publier simplement des témoignages, parce que dans l'idée des témoignages, il y a souvent le fait que il y a d'un côté ceux qui témoignent et puis ceux qui vont un peu commenter, analyser ces témoignages de l'autre côté. Donc, c'est plutôt, on publie des gens on édite des gens qui pensent leurs conditions avec tout ce que ça veut dire, en fait. Voilà, on pense que cette parole-là, elle est, c'est une question politique pour nous, en fait, de publier cette parole-là, en fait, hein, de la mettre en avant. Voilà, bon, ça, c'est un peu le contexte dans lequel on pense l'édition, notre place dans le monde. On essaie de faire des livres un peu différents. Voilà. Ça, c'est en tout cas, c'est notre ligne éditoriale. Donc voilà, bah, sur la prison et la justice, évidemment, c'est un peu la même affaire. C'est-à-dire que, évidemment, on n'a pas du tout envie de publier des juges. Ça nous paraît un peu imbécile de faire ça. Ils ont tout le temps la parole, ou en tout cas le type de parole à voix de chapitre partout. Et donc, on entend dans la société beaucoup. Beaucoup de choses dites sur la prison. Il y a beaucoup d'écrits sur la prison. Par contre, on entend et on lit presque jamais des dits et écrits de la prison. Donc voilà, c'est un petit peu le sens de ce bouquin. Et aussi, voilà. Enfin, c'est vrai que bon, il n'y a jamais eu autant de prisonniers en France. On le sait aujourd'hui. Les prisonniers, les prisonnières sont privés de parole. Leur correspondance est lue. Les conversations téléphoniques sont écoutées. On peut dire assez rapidement avec l'envolée, en fait, que les prisonniers et les prisonnières sont quand même considérés comme une sous-humanité en France et ailleurs aussi. C'est même la prison qui le fait d'entrer en prison qui fait tomber en fait les gens dans cette sous-humanité. Voilà, donc l'envolée évidemment lutte contre ça. Alors qu'est-ce que c'est l'envolée? Je vais peut-être un peu vous, pour ceux qui connaissent pas, peut-être c'est bien de rappeler ce qui finit par être quand même une longue histoire. L'envolée c'est créé en 2001. C'est d'abord une émission de radio sur Fréquence Paris Pluriel à Paris. C'est une émission de radio qui fait suite à des émissions de radio qui ont toujours un peu existé, on va dire, depuis les années 70, les grandes mutineries de 74 dans les prisons. Il y a toujours eu des émissions de radio qui font le lien entre l'intérieur des prisons et l'extérieur des prisons, avec des courriers, etc., enfin, qui sont lus à l'antenne, des relais en fait, de toutes ces luttes et de toute cette parole en fait, qui en elle-même, en fait, le fait que cette parole est interdite en prison, c'est très compliqué pour des prisonniers de s'associer, de prendre la parole publiquement, etc. Donc ça constitue déjà quelque chose de politique que cette parole existe et qu'elle ne soit pas censurée. Et donc l'envolée se veut non pas du tout un porte-parole, c'est pas du tout cette culture politique-là. Il s'agit plus d'un porte-voix, dans le sens où on donne de la voix à une parole qui existe déjà, de celles et ceux qui refusent le sort qui est fait entre quatre murs. Donc l'envolée, il n'y a pas de censure. Il n'y a pas de censure du tout dans les courriers, ce qui vaut d'ailleurs au journal d'être censuré par l'administration pénitentiaire.
Le journal.
Voilà. Parce que c'est une émission de radio. Exactement. Et à partir de 2001, il y a un journal en fait qui est créé suite à cette émission de radio. Bah, pour des raisons, j'ai envie de dire presque rationnelles, techniques, c'est-à-dire que les prisonniers sont transférés. Hein, les transferts, on change de prison en France, donc déjà il faut pouvoir se donner des nouvelles. Donc en région parisienne, il y a énormément de prisons en région parisienne. Hein, c'est là où il y a le plus de prisons en France. Mais dès qu'on est transféré ailleurs, on n'a plus de nouvelles des gens avec qui on était. Donc le journal permet ça, en fait. Et puis, ça permet aussi de faire entendre à l'extérieur des opinions des prisonniers. Parce que c'est un journal d'opinion, en fait. Ce n'est pas un journal, encore une fois, hein, ce n'est pas que des témoignages. C'est voilà, des gens qui pensent. C'est ça, la force de ça. Donc l'envolée, son rôle, finalement, ça passe par la radio, ça passe par un journal. C'est de fabriquer en permanence cette espèce de dialogue entre l'intérieur et l'extérieur. C'est vraiment ça, là, cette espèce de tension qui essaie de se développer. Vas-y, pardon.
Coupe-moi. Moi, je pense que c'est important quand même de rappeler comment l'envolée existe, en fait, et comment ça a été créé. C'est que l'envolée ne sort pas de nulle part de gens qui disent « Allez, on va donner la parole à des prisonniers ». Et du coup, en fait, l'envolée a été créée surtout par quatre personnes au début. Qui était pour trois d'entre eux des anciens prisonniers et prisonnières, et pour l'une d'entre eux, une proche de prisonnier qui allait très régulièrement au parloir. Et c'est quand même très important, je pense, pour se rendre compte de qu'est-ce que c'est l'envolée. Enfin, que c'est des personnes qui connaissent la prison qui ont créé l'envolée, et que c'est des personnes qui continuent d'être en lien avec la prison, qui continuent à reléguer l'envolée. Enfin, c'est pas théorique. Enfin, je sais pas comment dire. C'est pas des fausses relations avec des gens dedans. Enfin, pour moi, c'est important de le dire.
Et d'ailleurs, c'est là-dessus que se fonde en fait une pensée commune. C'est une pensée commune qui vient de la prison, qui est totalement inédite, en fait, en tout cas totalement radicale. Faut vraiment lire, faut scoltiner. Hein, le journal, c'est assez hallucinant. Non, mais c'est vrai que ça existe nulle part ailleurs, en fait, cette position-là. Et voilà. Donc alors. Juste pour que je continue un tout petit peu sur la radio, parce qu'il y a donc ce premier confinement il y a 2 ans, et une des conséquences radicales pour les prisonniers, ça a été la fermeture des parloirs. Hein, donc les parloirs, c'est ce qui permet quand même le lien central avec l'extérieur. Donc tout d'un coup, bling. Le premier réflexe de l'équipe de la radio qui est à Paris, ça a été de faire une émission quotidienne. Donc, qui a été fait avec l'envolée aussi journal. C'était vraiment une émission qui se construisait aussi à distance. Mais quotidiennement, on faisait le point. Et, Et c'est à ce moment-là que, alors là, je ne sais plus, il y avait énormément de radios qui ont rediffusé ça, puisque toutes les grilles étaient à l'arrêt, au moins une vingtaine. Donc ça a été un relais assez central à ce moment-là. Bon, c'est vraiment sa fonction, hein, le relais, de faire ça, quoi. Ben, ça, c'est pour vous donner un peu la teinte de la radio. Après, il y a le journal. Alors, en 2001, ce journal-là sort, en octobre 2001.
Non, 2021.
2021, pardon. Excusez-moi. Qui est censuré, donc. Qui est censuré par l'administration pénitentiaire. Il est censuré, notamment pour un gros dossier sur les morts suspectes en prison. Ce qu'on appelle les morts suspectes en prison, c'est on va en parler beaucoup ce soir, c'est des morts qui se passent à l'intérieur des murs, souvent dans les quartiers qu'on a disciplinaires, qu'on appelle les mitards, qui est souvent avec des matons pas très loin, voire ils sont complices directement, etc. Donc là, il y avait un dossier qui racontait, c'est les proches et les prisonniers qui racontent comment ça se passe et comment des matons sont impliqués dans la mort concrètement de gens. Donc ça, il y a une double censure. Alors le journal était rentré à l'intérieur, hein, pas avec les abonnements, mais dans toutes les coursives, quand l'administration a regardé le contenu du journal, il y a une petite affichette dans toutes les coursives de France en disant voilà qu'il est censuré, que les gens. Donc il y a l'administration qui est revenue chercher des journaux, etc. Puis ils pouvaient plus du tout rentrer, et ça s'est doublé d'une plainte pour diffamation à l'extérieur, qui pour l'instant ne donne pas de suite. Mais...
Et injure.
Donc voilà, ça c'est pour vous dire un petit peu le contexte dans lequel cette parole essaie de s'exprimer. Voilà, donc ça c'est. Donc voilà, enfin ça c'est déjà un premier élément. Donc ce livre-là, on le pense, donc les éditions et l'envolée, à l'occasion des 40 ans de l'abolition de la peine de mort, la dite abolition de la peine de mort. La peine de mort n'a jamais été abolie, c'est une phrase de prisonnier. Ils disent ça depuis 40 ans, ils disent la peine de mort n'a pas été abolie, c'est la guillotine qui a été abolie, ce qui est très différent. Voilà, enfin, c'est de ça un petit peu dont on va parler ce soir. Le livre, il est composé de récits individuels, donc de lettres qui ont été publiées dans le journal, de déclarations collectives, et de tout ça, donc ça nourrit, ça construit ce point de vue anticarcéral et antijudiciaire. Anticarcéral, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire en fait que c'est un point de vue qui se pense à partir de l'intérieur des prisons, en fait, à partir de cette condition particulière de prisonnières et de prisonniers, quoi. C'est vraiment ça. Et anti-judiciaire aussi, évidemment. Voilà, ça c'est un petit peu ce que je voulais déjà dire, un peu pour situer un petit peu globalement dans quoi s'inscrit ce bouquin. Voilà, est-ce que je voulais que je vous passe un peu la parole ?
Juste le truc que tu n'as pas dit pour moi, c'est que c'est des lettres et des témoignages presque exclusivement en fait dans ce bouquin. Et en fait, pour avoir fait la liste pour les envoyer à l'intérieur, ça concerne plus de 70 personnes en fait qui ont du coup participé à ce bouquin, mais pas du tout l'année dernière, sur 40 ans en fait. Enfin, c'est un peu l'idée de ce bouquin, c'est de quand même créer un objet qui puisse permettre de voir qu'est-ce que disent différents prisonniers et prisonnières sur tout ce temps long-là, et aussi certains proches aussi qui ont la parole dans le bouquin.
Donc, en fait, je parle rapidement un peu du chapitrage, parce que c'est quand même assez intéressant aussi. Donc, il se trouve qu'en 2001, et ça, on va vous en lire un extrait, parce que c'est un texte qui est assez déterminant, d'ailleurs pour la fondation de l'Envolée. C'est qu'il y a un appel en fait des prisonniers à dire en gros troubler cette fête en fait de la dite abolition de la peine de mort, parce qu'en fait quelque part on est la preuve vivante que cette peine de mort n'a pas été abolie. Enfin, on pourrait le dire comme ça. Donc il y a ces textes collectifs et notamment un texte très important de la prison de Arles. On peut le dire. Bah ouais. Je pense que ça vaut le coup. Alors vous allez voir, c'est copieux. Il y a vraiment, il y en a. On va prendre le temps. Hein.
Du coup, juste pour info, en fait, c'est une vidéo aussi que vous pouvez voir sur Internet. Et je vous le dis aussi parce que quand je vais lire le début du texte, vous allez voir qu'ils disent qu'ils sont cagoulés et tout, et pourquoi. Enfin, donc voilà.
Est-ce qu'on peut dire deux mots sur la comment le...
Eh ben, ce livre est tellement bien fait que je vais lire le surtitre, qui a l'air vachement bien fait. Le mardi 23 octobre 2001 à 19h45, une vidéo venue de la centrale d'Arles est diffusée pendant le journal de France 3, alors que la ministre de la Justice de l'époque se trouve sur le plateau. À l'image, trois prisonniers cagoulés dans une cellule maquillée par des draps lisent le texte retranscrit ci-dessous. Alors c'est un peu long, mais c'est bien. Avant de lire le communiqué qui suit, il nous faut préciser que si nous nous présentons à vous en cagoulés, c'est pour éviter la personnalisation de l'action en cours. Nous ne sommes que des détenus longue peine parmi d'autres. Le message que nous portons est celui de milliers d'hommes et de femmes sans voix, enfermés dans les prisons de France. Par ailleurs, nous tenons à indiquer que c'est pour des raisons de sécurité que nous portons des cagoules. Inutile de préciser que les autorités pénitentiaires n'apprécieront pas notre initiative, que la répression qui s'abattra suite à la diffusion publique de ce document sera importante. Les mesures de sécurité que nous avons prises risquent d'ailleurs de ne pas nous épargner les sanctions. C'est pourquoi nous demandons par avance aux associations et citoyens soucieux de la défense des droits de l'homme de veiller sur la centrale d'Arles dans les jours et semaines à venir. Cela évitera que ne se produisent des violences et des abus divers commis par des tenants de la répression. Bien évidemment, si le monde carcéral n'était pas ce lieu de non-droit où les droits d'expression et d'association sont interdits aux détenus, nous n'aurions pas été obligés de mener pareille action. C'est la nature, antidémocratique de la prison qui nous amène à agir de la sorte. Enfin, nous tenons ici à préciser que le matériel utilisé pour effectuer ce reportage a été pris sans le consentement de quiconque. Pour être plus précis, nous avons détourné le matériel en question sans que le détenu en charge de l'atelier vidéo de la maison centrale ne le sache. L'année 2000 aura été, entre autres, l'année de la révélation au grand public de l'horreur carcérale en France. Une honte pour la République, a-t-il été dit par beaucoup. Nombre de problèmes ont été soulevés, dénoncés. Des parlementaires à l'Église, en passant par diverses associations, tous ont eu l'occasion de s'exprimer sur le sujet dans une certaine unanimité. Nous en prenons acte. Mais comme toujours, la parole n'a pas été accordée aux principaux intéressés, à ceux et celles pour qui le quotidien est l'infamie carcérale, c'est-à-dire les détenus eux-mêmes. La parole ne nous est pas donnée, jamais. C'est pourquoi nous avons décidé de la prendre, ici et maintenant. C'est particulièrement au nom des détenus longue peine que nous nous exprimons, nous, les laissés pour compte, ceux pour qui l'horizon n'est que désespoir et haine. Nous sommes là, face à vous, pour exiger que nous soient appliquées des mesures justes, équitables, qui nous permettent de croire que nous n'avons pas été condamnés à la mort lente, à des peines qui ne sont qu'un substitut de la peine de mort. Nous sommes là pour dire haut et fort que nul n'a intérêt à ce que nous nous transformions en bombes humaines, car viendra le jour où nous serons libérés, où nous réintégrerons le corps social. Bon, d'accord. Mais non, il n'y a pas de... aussi, il y a beaucoup de pages. Bon, d'accord. Donc, du coup, vous lirez la suite quand vous aurez acheté le livre. Et pour conclure cette liste non exhaustive de revendications que vous pourrez lire à la page 21, 22 et 23, nous souhaitons dire combien il nous semble nécessaire, vital, que les autorités pénitentiaires s'attachent à remplir leur mission d'aide à la réinsertion des détenus. Force est de constater que nous, détenus des maisons centrales de France, ne bénéficions pas de mesures allant en ce sens. Manifestement, la volonté politique n'existe pas et les moyens mis en place sont quasiment inexistants. Il nous paraît clair que l'on nous sacrifie, que l'on nous destine à la récidive systématique. Nous refusons de servir de matière première à la politique sécuritaire de l'État. Bien évidemment, nous saluons tous nos camarades qui se trouvent présentement emmurés vivant dans des quartiers d'isolement, ainsi que ceux et celles qui subissent l'insupportable sanction du mitard. Force, courage et détermination à toutes et à tous. Un salut empreint de solidarité également pour tous les détenus se trouvant en maison d'arrêt. Les détestables conditions de vie en maison d'arrêt sont aujourd'hui connues de tous. Les changements s'imposent et vite. Enfin, nous souhaitons adresser un message à tous les jeunes des cités, à tous les enfants du prolétariat et du sous-prolétariat, à tous ceux et celles appartenant à la classe des sacrifiés du système. Hier, vos parents et grands-parents, nos parents et grands-parents, étaient transformés en chair à canon, envoyés au front pour y crever en défendant des intérêts qui n'étaient pas les leurs. Aujourd'hui, c'est le destin de chair à prison qui nous est offert, qui vous est offert. Refusez cette tragédie, refusez cette logique. Prenez conscience de tout cela avant qu'il ne soit trop tard. Car les portes de la prison se referment de plus en plus sur vous et de plus en plus longtemps, alors que les véritables délinquants, ceux qui vivent sur le dos de la misère, de notre misère, de toute leur arrogance, se goinfrent en rigolant de nos malheurs et de nos vies sacrifiées. C'est pourquoi nous appelons et les personnes à l'extérieur à perturber les cérémonies de célébration du 20e anniversaire de l'abolition de la peine de mort. Le 9 octobre doit être un jour de résistance contre la mort lente des perpétuités et des longues peines. Le 9 octobre doit être un jour de revendication pour le rétablissement des libérations médicales, des libérations conditionnelles et de toutes les mesures de l'application des peines. Collectif de prisonniers de la centrale d'Arles. Et du coup, c'était en 2000 ou 2001, j'ai oublié. 2001.
Donc voilà, ça c'est un texte très important, très, qui a eu beaucoup d'écho à l'intérieur à ce moment-là, aussi à l'extérieur. Hein, il y a eu plein de choses un peu de perturbées dans une certaine mesure. Des années plus tard, en 2006, à la centrale de Clairvaux, une dizaine de prisonniers font ce qui s'appellera l'appel de Clairvaux, et ils demandent le rétablissement de la peine de mort pour eux-mêmes, en disant « ça suffit l'hypocrisie, amenez la guillotine, en fait, là on est en train de faire des peines qui ne sont pas faisables ». Donc régulièrement, ces textes existent, en fait, ces textes collectifs existent, en fait. Hein. C'est quelque chose qui... Et donc cet appel de Clairvaux, il a un caractère désespéré et provocateur, mais en tout cas, il dit bien ce qu'il veut dire. Donc il y a ce temps long, en fait, qui a remplacé la guillotine au moment, ce basculement, en fait. Parce que l'abolition de la peine de mort, elle peut être aussi analysée comme un basculement en fait général de la place de la prison dans la société. C'est-à-dire que on rentre dans le début des années 80 et là il y a un enfermement de masse qui commence à exister en fait. Il y a le terme sécuritaire commence, les politiques sécuritaires apparaissent à ce moment-là. Avant, la prison est beaucoup plus là pour enfermer un milieu, enfermer espèce de délinquance dont c'est quasiment le métier, en fait, j'ai envie de dire. Mais là, la population carcérale va doubler et les peines vont exploser, puisque la peine suprême de la peine de mort va disparaître. Et effectivement, les longues peines vont s'allonger. Et donc, Badinter et d'autres, en fait, vont participer à cette refonte du code pénal, dont l'abolition de la peine de mort est un des éléments. En créant des peines de sûreté, en créant toute une mécanique pénale qui va en fait enfermer de plus en plus de gens pour des peines de plus en plus longues. Voilà, donc oui, exactement. Donc voilà, ça c'est un petit peu le début du livre où il y a ces grands textes. Après, il y a une série de textes importants aussi qui raconte comment enfin le quotidien ouais, le quotidien des prisons pardon tu veux dire il y a une partie qui est vraiment particulière sur ce qu'on appelle les quartiers d'isolement en fait les quartiers d'isolement qui est un endroit à l'intérieur de la prison, c'est l'isolement à l'intérieur de la prison. Et là, de cet endroit, c'est un peu des mouroirs, c'est un endroit très, très compliqué. Donc là, il y a beaucoup de témoignages là-dessus. C'est aussi un endroit dans lequel il y a énormément de solidarité entre les prisonniers aussi, parce qu'ils sont au fin fond de l'isolement. Et d'ailleurs, dans les années 70, on voyait des prisonniers circuler de quartier d'isolement de prison dans d'autres quartiers d'isolement. Donc, ça faisait un peu le tour comme ça. Il y avait des gens qui faisaient le tour de la France, de tous les quartiers d'isolement. Et ils ont fini par construire, en fait, des espèces de quartiers d'isolement géants. Ça, c'était au milieu des années 2000, que sont Condé-sur-Sarthe et Vendin-le-Vieil, qui sont vraiment des quartiers de haute sécurité, en fait, hein, un peu à l'américaine. Dans lequel ils se sont dit, bah voilà, on va résoudre en fait cette question de l'isolement en mettant tous ces gens là-dedans. Ça n'a absolument pas fonctionné. C'est-à-dire que les gens continuent de tourner dans toutes les centrales de France. Puis progressivement, cette logique de l'isolement s'applique à toute la prison. Parce qu'on peut dire que les prisonniers longue peine, leur régime de détention est avec des portes ouvertes. Ils peuvent circuler d'une cellule à l'autre. Sinon, ça serait pas vivable sur autant d'années. Mais ces quartiers-là, en fait, vont progressivement grignoter en fait cette logique-là, et de plus en plus, les promenades sont restreintes. De plus en plus, cette logique d'isolement en fait s'applique avec des prisonniers qui, dans ces quartiers-là, vont croiser un ou deux prisonniers au maximum pendant toute leur détention. Et encore. Voilà. Après, il y a ce qu'on appelle directement, la mort directement administrée, quoi. Donc, ce dont on parlait tout à l'heure. Et là, j'ai envie de dire qu'il y a quand même un peu d'actualité là-dessus, parce qu'il y a, toujours eu en fait des morts en prison, qui soient, il y a des suicides, un suicide tous les trois jours en prison. Enfin, je veux dire, on est dans cette, mais derrière ce mot suicide, il y a beaucoup de types de morts en fait qui peuvent être camouflés, parce que c'est, il faut imaginer quand même que c'est une administration qui tient les murs, donc il n'y a pas de vidéos qui peuvent être prises subrepticement d'une mort comme dans la rue. C'est très compliqué. C'est en permanence sous l'œil des prisonniers. C'est très compliqué de fabriquer une autre version d'une mort. Et il se trouve que depuis quelques années, et un peu dans l'élan du mouvement quand même important en France autour des morts de la police, il y a des familles et des proches de prisonniers qui... se battent pour leurs proches qui sont morts en prison et qui se battent pour que la vérité éclate. Et de ces rapprochements, c'est un moment un peu important qui est en train de se jouer en ce moment, un peu dans ce rapprochement là. Tous ces morts commencent à apparaître, à être visibles en fait, et à donner un peu la vérité de cette institution.
Loin. Enfin, pour moi, c'est surtout que les personnes qui subissent des violences, d'abord policières, se mettent à parler, à s'organiser entre elles, et que les personnes qui ont perdu quelqu'un à l'intérieur de manière suspecte se mettent à parler, en fait. Et du coup, à quelque part dire « Ok, mon proche, il était en prison, mais en fait, il n'a pas été condamné à la peine de mort, et il est mort dedans, et c'est bizarre. Et en fait, je prends le risque d'en parler publiquement, et du coup, de m'afficher en tant que proche de prisonnier. » Enfin, ce qui est déjà un frein, on va dire. Du coup, c'est vrai que il y a un suicide tous les trois jours en prison, c'est il y a un mort tous les trois jours en prison, dont des suicides, enfin des 10 suicides, dont des dites morts suspectes, dont des soi-disant morts naturelles, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Enfin, mais du coup, c'est énormément de gens qui meurent en prison. Mais enfin, pour moi, en tout cas, le mouvement qui a lieu en ce moment et qui est super intéressant, c'est ça, c'est que en plus, il y a des proches de personnes qui étaient en prison et d'autres qui étaient proches juste de personnes qui ont été tuées dans la rue, qui finalement se disent tous « En fait, on est victime de violences d'État et on va marcher ensemble. » Et en fait, on a vécu la même chose et on a vécu quasiment la même violence, avec les familles qui disent « Juste vous, il y a un mur en plus, en fait, il y a la prison, donc on ne saura jamais ce qui s'est passé dedans. Même s'il y avait des caméras, il n'y a pas de vidéo. Même si machin, on n'y aura pas accès. » Et c'est encore plus opaque, en gros. Et voilà.
Est-ce que... Tu veux nous parler un petit peu de... Pas tout de suite, d'accord.
Non, mais je pense que ça vaut le coup de revenir sur... vite fait quand même, pour que vous compreniez mieux le livre, de revenir sur juste la construction du bouquin, en fait, parce que on a pris une citation de prisonnier volontairement provocatrice, je sais pas quoi, qui dit donc la peine de mort n'a jamais été abolie, et du coup on l'a en fait décliné dans toutes les manières qu'a la prison pour tuer les gens, en fait. Et donc, il y a ce que tu disais au début, la mascarade de l'abolition, c'est-à-dire l'allongement des peines, ce grand processus d'allongement des peines. Puisqu'on a supprimé la mort, il fallait bien trouver pire que la mort. Et en fait, pire que la mort, c'est de passer toute sa vie en prison, en fait. Donc, il y a toute une première partie là-dessus, en fait, sur l'allongement, qui devient fou furieux, en fait, des peines. Après, il y a un chapitre qui s'appelle la guillotine carcérale, qui donc parle du fait que la prison est mortifère en tant que telle et qu'évidemment, elle engage les gens à se faire du mal à eux-mêmes. Après, il y a vraiment un chapitre complet sur ce qu'on appelle les peines infinies. Et en fait, les peines infinies, c'est pas tant la peine qu'on prend au tribunal que le fait que quand on est en prison, la prison, c'est un milieu qui, en fait, génère des conflits avec l'administration qui sont bien régulièrement provoqués par l'administration elle-même et qui donc font des incidents, ce qu'ils appellent des incidents au placard, qui sont jugés dans un tribunal interne à la prison et des fois même dans un tribunal externe à la prison et qui rajoutent des peines à la peine. C'est comme ça que, je sais pas, on a des correspondants à nous qui sont rentrés pour des 8 ans. Je sais pas, on parlera peut-être de Fabrice après, tu vois. Voilà, bon, on a un gars qui a 84 ans à faire et qui était rentré pour 20 ou 25, j'imagine, quoi. Bon, voilà. C'est spectaculaire. Et c'est quand même une pratique vraiment très courante. Enfin, c'est vraiment un système fort, quoi, au placard. Ce truc de prendre des peines parce qu'on est en prison, en fait. Donc voilà, c'est cette partie enterrée vivante. Ensuite, on a laissé mourir parce que quand même, il y a toute une période et qu'il y a tout un pan de ce truc aussi de la prison tue, qui a à voir avec le fait qu'on peut pas se soigner en prison, en fait. Et le Covid, la crise sanitaire, ou je ne sais comment l'appeler, qu'on a pris à bras le corps pendant justement parce que les gens étaient privés de parloir. T'as pas tout à fait dit ça, mais en fait nous ce qu'on faisait c'était un parloir quotidien en fait avec l'envolée. Vu que les gens n'avaient pas de parloir, on essayait d'organiser un genre de parloir quotidien qui était un parloir radio. Ça vaut ce que ça vaut, mais au moins c'était une manière de dire aux gens qui étaient abandonnés à l'intérieur, qui pouvaient plus voir leur famille, leurs proches et compagnie, que en fait ils n'avaient pas disparu de la société, que nous on considérait qu'ils en faisaient encore partie en tout cas. Et par ailleurs, on a retrouvé un peu ce truc qui était en fait la naissance de l'envolée, qui était vraiment de se passer des nouvelles de prison en prison. Et en fait, ça a un peu retouché vraiment à ce truc, quoi. Donc voilà, la question des soins en prison, c'est une question fondamentale et qu'on essaye de traiter aussi dans l'envolée journal et dans l'envolée radio. Il y a régulièrement une chronique santé dans l'envolée radio. Donc voilà, enfin, la prison tue aussi parce qu'elle s'occupe pas de laisser vivre, quoi. Et après, il y a effectivement le dernier chapitre qui est vraiment la question de la mise à mort, en fait, et de l'exécution, des exécutions réelles. Et du fait que la prison tue parfois par les mains de ses agents, quoi. C'est-à-dire que comme il n'y a plus de bourreaux, en fait, c'est les matons qui sont devenus des bourreaux une fois de temps en temps. Et c'est pas tant pour dire que les matons sont méchants et homicides et qu'ils ont la volonté de tuer des gens. La question, c'est plutôt que l'administration les couvrira systématiquement s'ils s'emportent jusqu'à tuer quelqu'un, quoi. Et ça, on le voit à la fois à l'intérieur, mais aussi en fait à l'extérieur, c'est-à-dire qu'il faut, et donc c'est pour ça aussi que quand on parlait des rapprochements en fait entre les familles de victimes de violences policières et les familles de victimes de violences pénitentiaires, c'est qu'ils se rendent compte qu'ils ont affaire exactement à la même machine et qu'il y a une machine à nier l'homicide, quoi, en fait, à nier le meurtre. Et voilà, et c'est pour ça qu'il est là, ce rapprochement, quoi, en fait, entre ces trucs. Donc la prison tue aussi parfois objectivement, quoi. Ce qu'on appelle mort suspecte ou suicide, c'est ça en fait. C'est des gens qui sont morts à l'intérieur. Après, de quoi ils sont morts? Et bien souvent, en fait, on se rend compte que sans doute les matons n'ont pas rien à voir avec ça. Soit ils l'ont fait eux-mêmes, soit ils ont largement laissé mourir les gens qui étaient en train de mourir et dont ils savaient qu'ils étaient en train de mourir.
Et par exemple, on a un exemple la semaine dernière, et par exemple, qui est juste un truc qu'on nous a demandé de relayer de familles qu'on connaît, qui est que y a un monsieur qui était prisonnier, je ne sais plus, à côté de Metz, là, qui a été retrouvé mort dans sa cellule alors qu'il devait sortir bientôt. La seule chose qu'on sait, c'est qu'ils ne lui ont pas donné son insuline. Il est mort. Bah ouais, mais ils ne lui ont pas donné son insuline, voilà. Et du coup, il y a un appel à témoins, parce que les seules personnes qui pourront témoigner, et ben, en fait, c'est des personnes emprisonnées autour de lui. Et déjà que c'est très très dur de faire sortir de la parole de prison, mais en plus, faire sortir de la parole de prison... quand il y a un enjeu comme ça, en fait, on a plein d'exemples où les personnes qui ont osé s'exprimer et qui ont réussi à faire sortir leur parole, alors déjà, il faut réussir à le faire, ils se sont fait super emmerder. Et par exemple, sur l'histoire d'Idir à Lyon Corbas, le seul témoin qui est en plus seulement un témoin auditif de son apparemment mise à mort, il a pris 3 mois de mitard, où il est sorti qu'une demi-journée à chaque fois entre les jours de mitard, pour qu'il puisse croiser personne, pour qu'il puisse pas témoigner, en fait. Enfin, donc ça marche. Enfin, l'enfermement fait que on essaye d'empêcher les gens de pouvoir témoigner aussi, quoi.
Et après, ça c'est aussi spectaculaire sur après la manière dont l'État va traiter en fait la mort en prison. En fait, on a toujours exactement le même processus, quoi, que comme pour les morts policières à l'extérieur. C'est-à-dire qu'on va souvent dire, bon, bah, c'était un toxico, ou alors il a été violent, ou bref, toute la liste de tout ce qu'on essaye de faire pour salir les morts, et pour les rendre responsables de leur propre mort, quand en fait, c'est des matons qui les ont objectivement étranglés, étouffés, écrasés, plaqués au sol, etc. Et donc, il faut, un peu comme à l'extérieur aussi, il faut une lutte complètement invraisemblable pour que les responsables, les meurtriers, se retrouvent devant un tribunal. Donc ça, c'est une lutte qui prend des années, qui est une lutte hyper forte et tout ça. Et toujours les familles, elles ont un peu ce truc de penser que la justice se prononcera dans les tribunaux, parce qu'on est encore, hélas, habité par ce genre d'idées. Et en fait, évidemment, la justice n'est jamais... C'est-à-dire, il faut une lutte invraisemblable pour que des matons se retrouvent devant un tribunal, mais ça arrive quasiment jamais. Et je dis ça parce qu'en fait, ça vient d'arriver, il n'y a pas si longtemps que ça, à La Rochelle, là. Donc il y a une bande de 7 matons qui ont tué un mec. On pourra rentrer dans les détails après si ça vous intéresse, mais là j'ai pas envie parce que c'est un peu glauque. Mais en tout cas, il y a 7 matons qui ont plaqué un mec au sol, qui l'ont étouffé pendant une demi-heure, qui l'ont transporté face contre terre dans un fourgon et qui l'ont laissé pour mort dans un mitard. Il était sans doute vraisemblablement décédé quand il est rentré au mitard. Quand ils l'ont fouillé, ils ont fait semblant de fouiller un mort. Enfin bref, on est vraiment sur des trucs atroces. Et il a fallu vraiment de la bagarre et tout. Mais il y a eu un procès en fait à La Rochelle il y a, je sais pas, un mois de ça, hein, peut-être un mois et demi de ça. Et bon, voilà, donc on a eu 7 meurtriers devant nous et tout, qui assumaient complètement ce qu'ils faisaient en disant que c'était la procédure, qu'ils avaient l'habitude de se comporter comme ils l'ont fait. Même la proc, elle était un peu surprise des procédures. Notamment une procédure, c'était de prendre une serviette sale dans les chiottes pour bâillonner un type. Comme ça, un mec lui a tenu un bâillon pendant 35 minutes derrière la tête, comme ça, à se faire des crampes aux mains, être obligé de prendre un rouleau de scotch pour accrocher le bâillon parce qu'il se faisait mal aux mains à force d'étouffer le gars. Et donc le délibéré a été rendu, je sais pas, il y a 3-4 jours, hein, je crois. Et il y a au maximum, je crois, 18 mois de sursis pour un des gars, quoi. Aucune interdiction d'exercer, donc c'est des gens qui continuent de travailler en fait en prison. Donc ils étaient accusés alors de violence ayant entraîné la mort, hein, je crois. Oui, c'est ça. Violence volontaire ayant entraîné la mort. Donc c'était pas un meurtre en fait, c'était des violences qu'on fait qu'un type était mort, quoi. Du sursis pour tout le monde, aucune possibilité d'appel pour la famille évidemment, et ces gens continuent d'exercer, quoi. Donc la prison tue dans le sens où l'État blanchit systématiquement les meurtriers, quoi. Donc la prison est effectivement là pour tuer des gens, il n'y a pas de question en fait là-dessus.
Et juste parce que c'est un petit peu intéressant aussi ce rapprochement qui a lieu justement entre les familles aussi de mort de la police, on va dire, et de mort de la prison, de la pénitentiaire. C'est ce truc de se rendre compte que en fait toutes les familles au début elles se battent pour avoir un procès, pour pouvoir en fait faire justice, et que en fait là de plus en plus il y a des familles qui nous disent faut qu'on change de nom, faut plus s'appeler justice pour machin, faut s'appeler vérité pour la personne qu'on a perdue, parce qu'en fait plus on voit de procès, plus on voit ce que vous faites, plus machin, plus on se dit qu'en fait, limite, on veut pas de procès. Enfin, c'est pire. Et en tout cas, il y a un mouvement comme ça qui se fait où, en tout cas, ça pose la question de c'est la justice de qui, comment, enfin, voilà.
D'ailleurs, on peut peut-être juste commencer une discussion avec vous. Enfin,
ou alors, on peut lire une minute de Karim.
Bah, elle est super longue aussi, mais bon.
On lit un petit bout.
Alors, un petit bout.
Mais non, mais c'est parce que c'est pour rendre les choses concrètes aussi. Dans l'idée, par exemple, une partie des lettres, des écrits qu'il y a dans ce livre, en fait, c'est des commandes. Enfin, en fait, on est plusieurs à l'envoler, à avoir des copains à l'intérieur, ou des copines, ou des amoureux, ou peu importe. Et en fait, on a aussi beaucoup... Enfin, je fais partie des gens qui ont écrit à des copains à l'intérieur pour dire « Eh, vas-y, on va essayer de faire un livre, mais là, 2021, on n'a pas trop de trucs, vous voulez pas écrire un truc ?» Et du coup, il y a pas mal de lettres super actuelles aussi dans ce livre qui sont de, enfin, qui ont été faites par des gens qu'on connaît bien, de que certains d'entre nous vont voir au parloir ou pas, hein, ça dépend vraiment des gens. Mais moi, je trouve que c'est intéressant de lire une lettre pour se rendre compte de la situation particulière d'une personne, parce que toutes les situations elles sont super différentes, mais en fait, c'est quand même bizarre. Enfin, on va dire que c'est bizarre. Tous les gens qui écrivent depuis longtemps à l'envolée ou qui continuent à tenir un lien régulier par écrit ou même par téléphone avec l'envolée, souvent c'est des prisonniers longue peine qui se considèrent comme étant prisonniers, comme étant presque une condition, parce qu'en fait c'est ce qu'ils vivent depuis des années, ils sont rien d'autre. Enfin, par exemple Karim là, mais c'est le cas de beaucoup de gens qui nous écrivent, il a jamais travaillé, il a été incarcéré mineur et depuis il est en prison en fait, et là il va faire bientôt 40 ans. Et du coup, c'est souvent des personnes qui se pensent en tant que prisonniers, mais qui du coup ont une vraie conscience sociale de, en tant que prisonnier, c'est quoi être prisonnier ? Enfin, c'est quoi c'est, enfin, ils ont que le regard de, bah, de leur expérience, quoi. Et du coup, là, par exemple, Karim, bah, en fait, je vais vous le lire, c'est le mieux plutôt que de parler de lui, mais c'est un gars qui a été détenu du coup petit pour des bêtises et qui est encore dedans. Et je vais trouver la page. Tiens la page. Je vais lire le début et la fin, comme ça, ça fera du suspense et tout. Lettre de... Ah merde, j'ai dit Karim, mais en fait, il s'appelle l'infâme dans le livre. Voilà. Donc, quartier d'isolement de Valence, 14 juin 2021. J'ai pris à la base 8 ans de prison. À la base. Mais l'AP et ses bourreaux ont fait leur office. Très rapidement, l'AP, donc l'administration pénitentiaire, m'a envoyé dans ces cimetières à ciel ouvert que l'on appelle isolement. Ces lieux où les villes canailles tout comme les voyous certifiés bonhommes, perdent peu à peu la tête, la santé et trop souvent même la vie par des suicides inexpliqués que j'estime être des assassinats. Ce, tout simplement pour avoir refusé de se faire avaler par une machine bien huilée que l'on nomme administration pénitentiaire. Alors, comment pouvoir espérer s'en sortir avec une vraie volonté sincère pour se ranger des voitures quand on est envoyé dans ces bas-fonds de la prison que sont les quartiers d'isolement ? Surtout quand on vit et subit l'inacceptable. Qu'est-ce que l'inacceptable, me demanderez-vous ? L'inacceptable, c'est quand tu subis de la part de tes bourreaux des tentatives d'assassinat, car ils ont essayé par 3 fois de me tuer véritablement. Bon d'accord, je continue un peu. Par 3 fois, ils n'y sont pas parvenus, mais j'y ai laissé des plumes. AVC, paralysie, membres cassés, etc. Ou encore, quand ces mêmes bourreaux te privent des choses basiques, comme le droit d'écrire vers l'extérieur, de lire, d'être soigné par un médecin, etc. Ou encore te privent d'eau froide quand il y a la canicule, te privent de tes repas, arrachent le peu de choses qui te connectent avec l'extérieur et ou ta vie passée ou future, comme les courriers de tes proches, les photos de tes frères et sœurs, etc. Ou encore, porte plainte contre toi pour allonger ta peine et comme beaucoup sont des manches-pierres, demandent des milliers d'euros de dommages et intérêts quand des mecs comme moi, à force de se faire rabaisser, insulter, frapper, etc., on décide de dire stop, de se rebeller et de se dire « moi, je tendrai pas l'autre joue ». Mais tout ça a un prix, le prix de la honte, le prix que j'ai payé de ces années d'isolement. Financièrement, bien trop, une somme à 6 chiffres, et ce uniquement pour des surveillants ou des détenus prévôts, car dans mon affaire d'assises, je n'ai pas de dommages et intérêts à payer aux victimes. Mais bien plus que le côté financier, le prix de la honte, c'est celui de ma vie à moi, ma vie en tant qu'homme, en tant qu'être humain. À cause de ces gens, de ce contexte mortifère de l'isolement strict, sécuritaire et sécurisé, du fait aussi qu'il n'y a eu aucun outil pour la réinsertion dans les QI, où tu es malmené H24 au lieu d'avoir à effectuer 8 ans, j'en ai 30 sur papier à faire, 30 ans. Et sur ces 30 ans, je ne sais pas combien j'en aurais fait au QI. Je vais m'arrêter là, parce que sinon c'est très très long. Un truc qu'on n'a pas dit aussi, c'est quand même qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui écrivent à l'envolée, qui sont des personnes qui ont fait ce que nous, à la radio, souvent on appelle des prises de parole, mais que les médias appellent des prises d'otages, et qui sont très souvent, pour les personnes surtout en quartier d'isolement, donc quartier d'isolement, c'est H23 en cellule, 1 heure en promenade, tout seul, dans un 9 mètres carrés grillagé même au-dessus. Enfin, c'est souvent des personnes qui, au bout d'un moment, pètent un plomb et prennent en otage un surveillant, un psy, quelqu'un, etc. Bon, ça arrive en tout cas. Et du coup, les peines de prison qui tombent au prétoire, suite à ça ou pas au prétoire d'ailleurs, en fait, c'est des très très grosses peines. Du coup, ça rajoute des années très vite en fait à ces gens-là et surtout des manières d'être gérés. Ils restent au quartier d'isolement, mais par exemple, ils arrivent en gestion. Menottés en permanence dans toute la détention avec des ERIS qui les gèrent en permanence, donc c'est le GIGN de la prison, c'est des mecs cagoulés avec des comment ça s'appelle boucliers et compagnie quoi. Donc voilà, enfin on connaît plein de gens qui à chaque fois qu'ils sortent de leur cellule, ils sont menottés et il y a une équipe avec eux pour qu'ils aillent voir le docteur. Voilà, et je pense qu'il faut lire ces lettres parce que vous les trouverez nulle part. Voilà.
Et donc l'envolée vient d'un livre qui s'appelle L'envolée, qui a été publié au milieu des années 80, qui est la première évasion en hélicoptère, voilà, par Serge Coutel.
On peut rajouter à ce propos qu'une des autres manières de dire que la prison tue, c'est qu'en fait, les matons ont le droit de tuer les gens qui essayent de s'évader au placard. Ce qui n'est pas du tout le cas dans tous les pays du monde.
Est-ce que vous avez des questions ?
Bah déjà merci beaucoup. Et moi je me demandais du coup au vu du contenu des lettres, je me dis pour que quand on parle des prisons, enfin l'intérêt c'est aussi que les choses ne sortent pas. Du coup je me demandais comment en fait toutes ces lettres avec un contenu aussi politique puissent sortir. Je sais pas si c'est une question qui pose, enfin voilà, mais du coup je me suis demandé comment en fait on peut faire sortir ces paroles-là, du moment que les lettres sont lues par les matons, une fois que...
Elles peuvent sortir par la poste, hein, ça arrive, même des lettres comme ça. Et puis, elles peuvent sortir par d'autres moyens. Voilà, enfin, c'est plus compliqué. Ça peut, c'est forcément lors des parloirs que
c'est... Heureusement qu'il y a des avocats corrompus. Quoi.
Voilà, ou par les avocats, on ne sait pas, enfin, ça peut...
Mais quelquefois, on est étonné. Hein. On reçoit des lettres par la poste qui ont ce contenu-là. Hein. Enfin, c'est.
Des fois, elles sont pas censurées. C'est ça qui est étonnant. Enfin, des fois, tu te dis non, mais il vise vraiment rien. Le Vagmest, il fait pas du tout son travail. Mais c'est super, merci. Voilà.
Après. Le Vagmest, c'est cette personne donc, qui est chargée à la dans la prison de lire les courriers. Enfin, de...
Après, en fait, ils ont une obsession sécuritaire, en fait, plus que politique aussi, moi, je pense. Hein. C'est-à-dire que. Les courriers, ils peuvent sortir. Après, juste, ils savent que lui, c'est un emmerdeur, en fait. Tu vois. Donc, c'est plutôt dans sa vie quotidienne, après, que ça va se traduire. Quoi. Quand on dit qu'il y a beaucoup de prisonniers longue peine qui écrivent à l'envolée, c'est aussi parce que, en fait, quand tu fais une courte peine, t'as pas du tout envie d'être abonné à l'envolée, en fait. Hein. T'as pas du tout envie d'avoir un quelconque rapport avec l'envolée. Parce que, comme disait K tout à l'heure, il faut vraiment se considérer comme un prisonnier et se dire que en fait ton état, tu sais, l'état dont t'es le pseudo citoyen, en fait c'est la prison quoi. Donc c'est vraiment un monde quand même qui est pensé pour être à part. Et donc il faut accepter d'être dans un rapport de si t'es abonné à l'envolée et que t'écris à l'envolée, t'es dans un rapport de lutte en fait avec l'administration pénitentiaire permanente quoi. Un mec qui prend une pige pour une connerie, il a envie de sortir vite, point à la ligne. En fait, il a pas envie de s'emmerder avec ce genre de truc quoi. Par contre, quand tu commences à faire des 20 ans, des 25, etc., en fait, ta condition sociale, c'est prisonnier. Et donc, à ce titre-là, bah, peut-être que tu es effectivement t'es en lutte avec l'administration pénitentiaire. Parce qu'en fait, ce qui sort comme information... Enfin, en fait, on est emmerdés et ils sont emmerdés quand ils disent les matons, là, en fait, ils ont vraiment essayé de faire beaucoup de mal à quelqu'un. Tu vois. Mais par contre, dire je pense que la prison, ça pue la merde... C'est pas grave, en fait. La prison s'en fout que tu penses qu'il n'y a plus la merde. Tu vois ce que je veux dire, je pense qu'il y a... Voilà,
c'est ça. Mais du coup, dans ce que tu dis, pour moi, il y a un truc super important. C'est que, du coup, n'abonnez pas des prisonniers sans leur avis. C'est super important. Mais vraiment. Enfin, sinon, c'est leur amener que des problèmes. Vraiment. Enfin, mais du coup, c'est quand même cool d'y penser.
C'est pas que des problèmes. Bah,
en fait, voilà. En fait, c'est... Ah, genre, lui, il lit ça, là, les emmerdeurs qui on a dû, nanani, mettre un truc dans toutes les coursives parce qu'ils disent que la prison est tuée et que c'est médiatisé. Bah, ok, tu vas avoir des problèmes, c'est bon, on sait de quelle équipe tu fais partie, quoi. Du coup, c'est bien d'en être conscient.
Parce que, notamment, le numéro qui a été censuré, qui a fini par être censuré par l'AP, là, parce que ça disait trop que des matons tuaient des gens. Le problème, c'est qu'il a été interdit après coup. Et en fait, ça veut dire qu'il y a eu des fouilles, en fait. C'est-à-dire que concrètement, ils sont venus démonter ta cellule pour trouver l'envolée dans la cellule, quoi. C'est ça quand même. Tu vois, concrètement, ça, c'est pas rien, quoi, d'être en rapport. Et c'est pas parce qu'on est dangereux, c'est juste parce que la prison veut pas qu'on parle d'elle, c'est tout.
Et ce qui se passe de plus en plus, c'est-à-dire que là, c'est créé en 2001. En 2001, ça constitue quand même un scandale de dire que la peine de mort n'a pas été abolie. Aujourd'hui, on est dans un autre contexte politique et social. Qui fait que finalement, on a l'impression qu'il y a une espèce de majorité qui voit pas trop le problème, en fait. Hein, et c'est un peu ça qui est particulier. Donc là, on essaie de tenir une parole depuis tout ce temps-là, lui donner de la voix à l'extérieur, etc., dans un contexte où finalement, que des gens meurent en prison, ils l'auraient peut-être bien cherché, finalement, etc. Enfin, donc là, il y a une espèce d'inversion un peu... Un peu général, il y avait toute une espèce de terreau un peu d'humanisme de gauche qui existait en 2001, qui aujourd'hui s'est réduit comme une peau de chagrin. Voilà, donc ça c'est vraiment particulier le contexte. C'est parce que on vous décrit des tortures qui sont presque valorisées aujourd'hui. En fait, c'est pour ça qu'il y a une espèce d'encouragement. Et quand on parle des matons violents, etc., ils sont encouragés. Il y a vraiment, ils sont pas que encouragés par leur administration. Il y a une espèce de climat social dans lequel on leur demande en fait ils peuvent torturer fièrement. Enfin, j'exagère un peu, mais il y a une ambiance qui est vraiment de ce type-là. Et c'est pour ça que ça nous paraît central en fait de réussir à porter cette voix, cette pensée en fait, cette pensée qui est à l'intérieur des prisons, parce que ce regard-là en fait, on en a besoin en fait, on a besoin de ça. Et par exemple, je vous prends un autre exemple. en 2005, 2006. Donc on est dans les prisons françaises. Des prisonniers commencent à dénoncer dans les quartiers d'isolement ce qui se passe pour eux et ils mettent des t-shirts orange et ils appellent leur quartier d'isolement Guantanamo pour montrer en fait, pour choquer en fait. Moi je suis pas du tout sûr que aujourd'hui ça aurait le même impact si des prisonniers aujourd'hui mettaient des t-shirts à Abu Ghraib ou je ne sais, enfin en tout cas là il y a une espèce de climat et c'est pour ça que on est obligé de repartir de là. Nous on essaie de repartir systématiquement de cette position en fait et cette d'abord pas laisser mourir au fond des cellules tous ces gens en fait puisqu'ils meurent aussi de l'oubli en fait hein, ils meurent d'oubli, c'est vraiment des oubliettes. Donc c'est aussi en fait dans ce qu'on essaie de faire, c'est pas que un geste de dénonciation, c'est aussi un geste simplement de fraternité, de sororité. Enfin, c'est ça qui est pour nous qui compte en fait. C'est pas de tenir un grand discours sur la prison à l'extérieur, mais de fabriquer en fait cette espèce de aussi une communauté, de complicité. De voilà. Enfin, c'est pour ça. C'est ça la différence peut-être entre de la presse qui publierait, qui parlerait des prisonniers, etc. Tous les gens qui sont publiés dans ce journal, c'est des personnes avec qui on a un rapport d'amitié, un rapport intime qui s'est construit. Et c'est pour ça que la question même d'ailleurs de la vérité de ce qu'on, des informations qu'on sortirait ne se pose même pas pour nous en fait, parce que on se construit dans un rapport de confiance avec eux. Et puis de toute façon, les prisonniers ont raison. Ils ont raison. Parce qu'ils sont dans une position où ils ont raison, en fait. De fait, ils ont raison. Ils ont raison dans ce qu'ils peuvent dire. On parle vraiment de ce... Et quand je dis prisonnier, évidemment, je dis aussi prisonnière, pardon. Mais,
oui, et tu dis aussi emprisonné en centre de rétention administrative, et tu dis aussi enfermé en hôpital psychiatrique. Enfin, je pense que c'est un truc qu'on n'a pas dit beaucoup, parce que le livre, là, il se concentre vraiment sur la prison-prison. Mais nous, à l'Envolée, pendant les émissions comme dans le journal... On relaye beaucoup de paroles d'enfermés, enfin de soi-disant retenus, enfin ils les appellent comme ça, les prisonniers des centres de rétention. Et quand on a des personnes qui nous écrivent de lieux d'enfermement, peu importe lesquels, tant qu'ils y sont enfermés, on relaye cette parole. Voilà, enfin on l'avait pas dit.
Oui. Surtout avec l'allongement de la durée de rétention, comme vous savez, qui s'assimile totalement à des peines d'emprisonnement, et avec l'espèce de boucle un peu de l'enfermement, c'est-à-dire on vient t'accueillir à la sortie du centre de rétention pour te mettre en prison et vice versa, etc. Donc tu passes ton temps en fait et donc ça c'est quelque chose qui est en train d'être de plus en plus systématique, de plus en plus institué même hein. Cet enfermement des étrangers en prison, dans les centres de rétention, etc. Enfin c'est voilà. Mais en fait, même si je reviens un tout petit peu sur le point de vue d'éditeur, il y a eu, à partir des années 50 en France, il y a eu vraiment de la littérature qui sortait des camps, de goulags, etc. Enfin, que c'était très important en fait de lire ça aujourd'hui, enfin à l'époque, ça a été très important même comme littérature, comme conscience sociale, etc. Nous, on pense qu'il y a quelque chose de très important qui joue dans la lecture. Évidemment, tout n'est pas comparable. Hein. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est vraiment très important de lire, de faire circuler ces textes-là. Enfin, même d'un point de vue d'édition, pour nous, c'est central, en fait. Hein. Il y a quelque chose d'un peu... Donc, on continuera à le faire. Voilà. Et puis, vu la longueur des peines, on continuera à le faire longtemps, quoi. Enfin...
Et en plus, du coup, le journal L'Envolée est gratuit en détention pour toutes les personnes qui souhaitent s'y abonner. Parce que, en fait, vous abonner, et ce qui est le mieux que d'acheter des numéros à l'unité, ça nous permet d'abonner des personnes à l'intérieur et c'est un peu, enfin, et d'en imprimer d'autres. Mais c'est un peu ça l'idée et c'est pour ça que c'est cool de pouvoir donner des sous aussi pour qu'on puisse continuer à le faire. Voilà.
Moi, j'ai une autre question. Mais justement, vous parlez de centre de rétention et du coup, je me demandais si... c'est une question, remarque, je ne sais pas, en tout cas, quelque chose que moi, ça m'a vachement choquée en me rendant compte par rapport à la gestion qu'on a de l'arrivée des migrants. Et justement, c'est les dispositifs hotspot qui, je trouve, qui c'est vachement un truc, un lien avec cet isolement total, parce qu'on parle de quand même, on parle de situations insulaires où les gens ils sont bloqués, voilà. Et du coup, je me demandais si c'est pas exactement la question, mais juste. Ça m'a vachement mis un rapport avec l'isolement dont vous parlez et une situation qu'on est en train de créer au niveau européen, où en fait 9 centres d'accueil sur 10 sont dans des situations insulaires, et je trouve ça angoissant. Et du coup, je ne sais pas trop.
J'ai envie quand même de rajouter une chose importante, c'est que Muret, donc la ville de Muret, va accueillir une nouvelle prison, que c'est pas encore tout à fait joué, mais que c'est très avancé. 600 places, ce qui va faire de Muret la capitale française pénitentiaire. Donc on est quand même, par ailleurs, un peu dans l'œil du cyclone, quand même, à Toulouse aussi. Voilà, enfin, ça c'est quand même important de le dire. Et d'ailleurs, il y a eu un rassemblement il y a pas très longtemps à Muret. C'est quand même assez intéressant. Mais il n'y a pas grand monde, hein, je vous le cache pas. Mais il y a quand même, c'est marrant de voir la LDH être là, à tenir des positions qu'elle ne tient pas habituellement. D'ailleurs, enfin, avant c'était beaucoup plus des riverains qui sont aussi. Donc le collectif s'appelle Pour un Muret écologique et non carcéral. C'est quand même plutôt intéressant. Après, il y a évidemment aussi des collectifs plus politiques qui ont un point de vue construit sur la prison qui sont là aussi. Il y a des agriculteurs, parce que c'est sur des terres agricoles, puisqu'on a dit pendant très longtemps, on a dit « Ah non, ces terres, le maire voulait les occuper pour faire plein de choses. » Enfin, j'en sais rien. Mais on a dit « Non, on ne peut pas toucher ça, c'est des terres agricoles. » Et puis tout d'un coup, bing, l'État arrive avec un projet d'intérêt général en disant bah voilà, maintenant ça va être une prison à l'autre bout de la ville, puisque ça va pas être au même endroit, hein, ça va être carrément à l'autre bout de la ville. Donc c'est vraiment cerné les voilà, enfin disons que ça se passe vraiment là. Quand même, le projet avance relativement tranquillement, enfin je veux dire, il y a eu une enquête publique qui a conclu au fait qu'il fallait pas faire ce projet. Bon, ça n'a, encore une fois, ça ne sert à rien, que ça soit dans un sens ou dans l'autre. Enfin, donc ce projet est vraiment en train d'avancer, mais ça va donner une touche un peu générale quand même à la région, qui va pas simplement être une région de l'aéronautique, mais aussi une région carcérale très forte. Non, mais il faut quand même imaginer, hein, c'est capitale européenne. Européenne, je ne sais pas, mais quasiment. Hein. Mais voilà, en tout cas. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, non, mais c'est pas rien, quoi. Donc c'est.
Par rapport à la population, quand même, il y a un petit ratio un peu.
Voilà, donc.
Et je me disais qu'on n'avait pas dit. Ouais, c'est ce truc que la radio. Je pense que c'est important quand même, parce que juste pour info, du coup, il y a donc en région parisienne, il y a la radio en direct une fois par semaine, mais il y a aussi des rediffs. Et par exemple, à Toulouse, sur Canal Sud, c'est. Hier, on était quel jour ? Je l'ai entendu. Lundi ? Quoi ? On n'est pas vendredi. Tous les lundis soirs, de 17 à 19h, je crois, un truc comme ça. Enfin, c'est une heure et demie d'émission. Du coup, c'est retransmis sur Canal Sud. Du coup, ça, c'est cool. Et aussi, pour info, il n'y a pas que l'équipe de Paris en direct qui fait des émissions. Il y a aussi l'équipe du Sud qui fait que aussi, ça peut valoir le coup, même si vous êtes dans le coin. Nous aussi, certains d'entre nous, on est dans le coin. Enfin, c'est pour vous dire ça, quoi. Donc voilà. Et ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il y a aussi des contributeurs extérieurs aux émissions de l'Envolée, dont une super émission que vous connaissez sûrement, qui est surtout un site internet qui s'appelle La Sellette chronique de la violence judiciaire. C'est vachement bien. Et je vous invite à aller faire un tour. Et je crois qu'ils sont plutôt du coin. Voilà.
Je fais une petite parenthèse. On va sortir un bouquin d'ici quelques mois. Bah, Allons-y. Hein. De Kamel Daoudi. Kamel Daoudi, donc, est un prisonnier qui a fait un certain nombre d'années de prison. Et à la fin de sa peine, on lui a dit « Venez avec nous, monsieur, vous êtes assigné à résidence. Ça fait 13 ans que ça dure. » Il pointe entre 3 et 4 fois par jour. Et il ne sait pas du tout quand est-ce que ça va s'arrêter. Donc là, il est à Aurillac, mais dans les 2 heures, il est déménagé à l'autre bout de la France. Il vit loin de sa femme et de ses enfants, tout ça. Enfin, bref, en tout cas, on sort, donc on va sortir un petit bouquin avec les textes qui publie sur son blog depuis maintenant une dizaine d'années. Voilà, mais c'est pas, et donc lui, il est vraiment, il est exactement au cœur de cette expérimentation un peu de l'assignation à résidence qui existe. Hein, c'est pas nouveau, mais là, vers sa généralisation, voilà, donc il est coincé, quoi. Il est dans une espèce de brèche administrative. Hallucinante parce qu'on peut pas l'expulser en Algérie parce qu'il a la double nationalité et du coup mais en même temps voilà on veut pas le remettre en prison donc il est coincé et c'est pas du tout une mesure de justice qu'il a mis dans cette situation là c'est vraiment une mesure administrative du ministère qui décide à un moment donné ça et il a connu 10 ministres de l'intérieur différents et il est coincé dans ce truc là donc et heureusement qu'il a un peu d'humour dans ces textes, parce que ça sauve un peu, je pense, l'humour, mais voilà. Bon, ça, c'est pour dire qu'effectivement, il y a vraiment ce truc-là, c'est un champ énorme, l'assignation à résidence. Et on n'a pas fini d'en voir. Enfin, si, en fait, on vient d'en faire une expérimentation assez large, quand même, mais on voit bien que c'est très prometteur, quoi. Enfin, je ne résiste pas au plaisir de vous lire un extrait du texte de L'Envolée, de Serge Coutel. Quand tu sais que tu es en train de faire perpète, ce n'est pas simplement un jour après l'autre, non. Chaque jour, tu fais perpète en entier, avec les souvenirs anticipant de plus en plus tes souffrances à venir. Et cette solidification des heures, quand elle se cristallise en une gelée vitreuse, et la vie qui devient une maladie, c'est la plus terrible institution de notre époque que cette justice, fatiguée de surenchérir sur le crime qu'elle prétend punir, ne sacrifiant plus, n'écartelant plus, ne dépeçant plus, n'empalant plus, ne brûlant plus et même ne décapitant plus. Il n'y a plus ni fer, ni roue, ni gibet, ni bûcher, ni rien. Ce qui remplace tout, c'est le temps. La vie amputée du temps. C'est ça la prison. Du temps infligé dans sa nudité. On ne tue pas, on laisse mourir.
C'était « Rencontre avec des membres de l'Envolée et des éditions du Bout de la Ville » autour du livre « La peine de mort n'a jamais été abolie », dit et écrit de prison, choisi par l'Envolée.
Radio Livre Dormir.